Idées en bulles. L'émission qui vous propose de philosopher en promenant, présentée par Olivier Solinas et mise en musique par Malka et son frère.
Philosophie.
La promenade du jour.
Un chapeau vaut bien une muse.
Bonjour à tous et merci à chacun d'écouter cette nouvelle émission d'Idées en Bulles, l'émission qui vous propose de philosopher en promenant. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un monument de la chanson française. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Nous allons au Grand Hôtel 66 La Canebière, dans le premier arrondissement de Marseille. Attention, ne vous trompez pas, il s'agit du Grand Hôtel de Marseille, qui est un ancien palace, situé sur la Canebière et qui sert de commissariat de police aujourd'hui. Il ne s'agit pas du Grand Hôtel de Noailles. Un commissariat dans un palace, il y aurait déjà de quoi commencer un film avec les plus beaux dialogues de Jacques Audiard. Mais ce n'est pas le 7e art qui va nous occuper ici, c'est la musique. Le Grand Hôtel ouvre le 5 mai 1863. Il marque l'angle de la rue Garibaldi et de la Canebière. Il est construit en lieu et place d'une partie de l'ancien hôtel particulier de Joseph-Antoine Chabert, chevalier de Noailles, constructeur de galères en 1679. Le Grand Hôtel est l'œuvre des frères Joffré. L'édifice en impose. Il fallait bien être deux pour le construire. Mais ce n'est pas non plus d'architecture dont nous parlerons. Pendant plus d'un siècle, 130 ans exactement, le Grand Hôtel a accueilli des célébrités. Gandhi a séjourné en 1931, et puis en 1937, un chanteur, notre chanteur, compositeur, interprète, se produit dans le cabaret de l'hôtel, le Tyrol, situé dans les sous-sols. D'ailleurs, c'est là qu'il va être découvert par Jean Cocteau. C'est pendant son année de service militaire à Istres que cet artiste va écumer le cabaret. En service le jour, il rejoint tous les soirs Marseille, où il se produit, il compose la nuit et repart le lendemain matin. Il faut être très jeune ou un peu fou pour faire cela. Quand l'inspiration vient, il ne faut pas la chasser. Son surnom est alors tout trouvé. On va l'appeler le fou chantant. Pour découvrir son nom, il vous suffira de lever la tête. Regardez la statue qui se situe à droite, au-dessus de la porte d'entrée. Elle symbolise Mercure. Regardez son chapeau mou, jeté en arrière sur ses cheveux frisés. Vous ne trouvez pas qu'elle a des faux airs de Charles Trenet ? Voilà qui est dit. Notre artiste mystère se serait inspiré de la statue pour construire son personnage artistique, le public marseillais, lui, ayant déjà trouvé son surnom de fou chantant. Vous écoutez Des idées en bulles, l'émission de radio qui vous propose de philosopher en promenant. Il y a là-dedans quelque chose de magique que seul l'art sait rendre concret. L'inspiration. Mais au fait, c'est quoi l'inspiration ? Trenet s'inspire de Marseille ? Mercure inspire traîner, à moins que ce ne soit le contraire. Je ne sais pas très bien ce qu'est l'inspiration, mais elle semble jouer un rôle important dans la création. Allez, un petit tour du côté des dictionnaires. Une foi ne vaut pas coutume. Inspiration, premièrement, action par laquelle l'air est inspiré, entre dans les poumons, mouvement opposé à l'expiration. Dit autrement, pas d'inspiration, pas de vie. L'inspiration, c'est le souffle de la vie. Je continue. Deuxièmement, mouvement de l'âme, pensée, action, qui sont dus à une insufflation divine comparée à l'insufflation qui introduit l'air dans la poitrine. Bon, alors, c'est Mercure qui inspire traîner. Eh oui, mais il se trouve que le dieu en question est une statue en pierre. Et puis, ai-je forcément besoin des dieux pour être inspiré ? Mais ne nous décourageons pas. On peut tenter maintenant cette hypothèse un peu vague et farfelue. Mais pour un fou chantant, l'inspiration est à la fois le souffle de la vie du corps et le souffle de la vie de l'âme. En fait, l'inspiration, c'est peut-être ce qui fait que, tout d'un coup, le réel entre dans l'artiste comme l'air. Il entre à un tel point avec une telle violence et une telle acuité que lorsqu'il ressort, il n'est déjà plus le même. Il est là, dans l'œuvre, autrement, prêts à être de nouveau partagés. Pour aller vite, l'inspiration est de l'ordre de la transfiguration du réel. Mais alors, est-ce là ce qui dérange Platon ? Au livre 10 de la République, il propose de chasser les artistes de la cité, au nom du fait qu'ils sont des illusionnistes. Une toile ou une sculpture s'éloigne de 3 degrés de la vérité profonde des choses. Elle est la copie d'un objet sensible, qui n'est lui-même que la copie de la seule vérité possible, l'idée pour Platon. Et Socrate de donner l'exemple de Xeris, qui peignait des raisins tellement réalistes que les oiseaux venaient picorer la toile. Vous écoutez Idéambule. D'accord, on voit très bien, l'apparence des choses n'est pas leur vérité. Ce n'est pas en imitant que l'on comprend, d'où la tâche de la philosophie, de nous dévoiler l'essence profonde de toutes les choses. Mais quand même, chasser les artistes de la cité, est-ce à dire que Platon aurait apprécié le fait de trouver un commissariat à la place du Tyrol ? Je ne crois pas. Platon n'est pas le penseur d'une société ultra-sécuritaire et tyrannique. Et puis, je connais des policiers inspirés, bien capables de nous chanter du traîné. Ce qui est en jeu ici, c'est tout simplement une certaine conception de l'imagination, qui met en jeu une certaine conception de l'inspiration. Platon voit dans l'imagination une simple et seule fonction reproductrice d'images. L'artiste refait, contrefait. En cela, il crée une couche d'apparence supplémentaire, un voile de plus entre nous et le réel. Il n'est rien de lui-même et par lui-même. Son inspiration lui viendrait donc des dieux. Or, l'imagination peut être créatrice. Dans ce cas, l'artiste inspiré donne à voir non seulement autrement, mais il donne à voir du nouveau. Il nous libère de nos habitudes de voir. Pour comprendre, posez-vous cette simple question. Demandez-vous si une œuvre belle est une œuvre qui se contente de recopier son modèle à la perfection. À quelques années près, 6 ans, Trainé pouvait croiser Gandhi. Heureusement que sa rencontre avec Platon était impossible. Peut-être lui aurait-il chanté ces quelques phrases de l'une de ses chansons. « Tiens, il pleut, pourtant le ciel est bleu. Comme c'est curieux de voir tomber la pluie en plein midi. Au soleil ébloui, oui, oui, de voir tomber la pluie. Tiens, 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 il pleut, ce n'est qu'un petit nuage qui fait ce qu'il peut pour rafraîchir le temps, juste un instant, dans son petit voyage. » Allez, que vos pieds portent votre tête loin, très loin, au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Idée en bulle. Tous les dimanches à 10h45 sur Radio Grenouille 88.8 et sur www.grenouille888.org.